Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce micro-Rebelle Hebdo en date du vendredi 27 mars 2020 à 18h tous les vendredis sur micro-rebelle.fr et sur l'appli de la Franf. Par ailleurs, nos amis de Radio PFM 99.9 dans l'Arrajois nous rediffusent le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche après-midi à 14h. Nous les en remercions. Enfin, un rappel, toutes nos émissions, tous nos reportages sont podcastables et téléchargeables sur micro-rebelle.fr. Pour aujourd'hui, bien entendu, ce micro-rebelle hebdo ne vous proposera évidemment pas d'agenda social et culturel et fera donc une large place aux chroniques et reportages de nos salariés et bénévoles. Ça commence peut-être à être une habitude. Ce micro-rebelle hebdo est réalisé hors les studios de notre radio du fait du confinement face à la pandémie de coronavirus. Et comme la semaine dernière, nous consacrons une large part de cette émission justement à cette épidémie au travers de reportages, d'articles de presse, d'entretiens téléphoniques en France et dans le monde. Vous penserez sans doute, comme toutes les télés, comme toutes les radios, comme toute la presse, nous laissons juge nos auditrices et auditeurs, mais cette crise est pour nous aujourd'hui l'occasion de réaffirmer et de préciser comment, à Micro-Rebelle, nous concevons le sens de notre activité de médias d'information. Pour dire les choses de manière synthétique, nous souhaitons appuyer notre activité sur une éducation populaire politique. Avec une crise sanitaire telle que celle que nous connaissons aujourd'hui, il n'est pas suffisant de faire appel à des experts qui bien souvent produisent un discours dépolitisé et lisse. Nous préférons au contraire donner la parole à des travailleuses et travailleurs, enseignantes et enseignants, infirmières, urgentistes, y compris quand ils et elles refusent de se soumettre à l'injonction à l'unité nationale, quand ils et elles entendent continuer à faire valoir leurs droits de critique. Et de même que nos reportages s'attachent à cette parole critique, nous souhaitons également partager nos réflexions sur l'actualité, nos réflexions à la lecture de la presse, avec la même possibilité de critique. Place donc à notre rubrique « Actualité et revue de presse ». La presse regorge de témoignages de solidarité. On y évoque des initiatives de soutien aux soignantes et soignants, ainsi que des actions ludiques qui semblent faire beaucoup de bien à celles et ceux qui les mettent en œuvre. Un exemple parmi de nombreux autres, La Voix du Nord titre « Un merci géant projeté sur le terri pour remercier les héros du quotidien ». Il s'agit, je cite La Voix du Nord, de la projection d'un message XXL sur la terre, sur le terri viticole d'Haillicourt. Et le journal ajoute « Les Haillicourtois vont pouvoir participer à une seconde projection ». Des exemples comme celui-là, la presse en regorge. Et pourtant, est-il encore possible de parler de solidarité sans parler d'égalité? Autrement dit, sommes-nous égaux devant l'épidémie, devant le confinement? Commençons par les inégalités entre les riches et les pauvres. Pour parler des riches, le plus simple est de se rendre sur le site internet du Figaro. On y découvre des articles au titre évocateur. Coronavirus, les différents scénarios de l'impact de la crise sur l'immobilier. Ou encore, profiter de la crise pour réfléchir à une relance basée sur la production de logements abordables. Ou alors, les différents scénarios de l'impact de la crise sur l'immobilier. Et puis, coronavirus, quelles sont les garanties pour votre épargne? J'ai également noté cet article, nos suggestions pour une partie de golf à la maison, avec ces précisions, je cite, travailler son swing, progresser, tout en restant au salon, c'est possible, revue de détail. Bref, on sent bien que les préoccupations ne sont pas les mêmes chez les confinés lecteurs du Figaro et chez les confinés des quartiers de la République à Avion ou de la Grande Résidence à Lens. D'une manière plus large, l'épidémie et le confinement révèlent de profondes inégalités sociales. Qui aujourd'hui se retrouve en télétravail? Les cadres ou les intérimaires? Où le confinement est-il le moins pesant? Dans les quartiers bourgeois ou dans les cités populaires. Et on pourrait allonger la liste. Est-ce que tous les enfants sont égaux dans le dispositif de l'école à la maison? Et puis, au-delà de la situation franco-française ou européenne, la pandémie révèle que des milliards d'êtres humains n'ont tout simplement pas la possibilité d'effectuer le plus simple des gestes barrières, se laver les mains, faute d'accès direct à l'eau. Et ne parlons pas de la distanciation sociale quand on est dans un bidonville ou un camp de réfugiés. Continuons donc à parcourir la presse avec ce titre dans La Voix du Nord. 25 ordonnances pour encaisser le choc économique et social. Et le journal cite Édouard Philippe, « C'est l'urgence sanitaire qui anime tous les esprits aujourd'hui, mais c'est aussi, et ce sera de plus en plus, un choc économique, un choc social. » Fin de citation. Et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, n'est pas en reste. Je cite, « Nous ne laisserons personne de côté. Les ordonnances vouées à la protection des plus vulnérables, RSA, allocation adulte handicapé, droits des demandeurs d'emploi, seront préservés pendant toute la période de confinement. » Fin de citation. Mais tout le monde n'est pas dupe et La Voix du Nord termine son article en exposant « Le droit du travail en prend un nouveau coup. Dans certains secteurs, qualifiés d'utilité nationale, les salariés pourront travailler jusqu'à 48 heures ou 60 heures par semaine. Leurs entreprises pourront leur imposer une semaine de congé à date choisie. Les règles de repos hebdomadaires ou dominicaux vont parfois voler en éclats. » Fin de citation. Et la conclusion de La Voix du Nord est la suivante. Sur ce volet, les syndicats étaient vent debout dès hier, d'autant que l'aspect provisoire de cet état d'urgence fait déjà débat. Fin de l'article. Il semblerait en effet que ces ordonnances légalisent une remise en cause des droits jusqu'au 31 décembre prochain, c'est-à-dire bien au-delà de la durée prévisible du confinement. On commence ainsi à percevoir où nous emmènent les discours sur la nécessité de relever l'économie. La logique reste la même. Toujours, il s'agit de préserver un système économique qui rapporte aux actionnaires, aux capitalistes. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec la retraite à points. Toutes les discussions sont possibles, à condition de ne pas toucher à la contribution des employeurs aux cotisations. Avec la crise sanitaire, le raisonnement est le même. Tous les moyens sont bons pour sauver l'économie, mais jamais n'est abordé le fait que les profits des entreprises et les dividendes des actionnaires seraient susceptibles d'être mis à contribution. Et au final, ce sont les travailleuses et travailleurs précaires, intérimaires, qui paient la note. Le terme « guerre » correspond effectivement tout à fait. Dans toute guerre, il y a celles et ceux qui vont au front et il y a la minorité qui se planque à l'arrière. Il faut bien sûr revenir sur l'état du système de santé en France après des mois de revendications, de grèves des personnels hospitaliers. La Voix du Nord fait parler Thomas Madine, chirurgien cardiaque, avec ces mots glaçants « Le tri a débuté de facto ». Et le chirurgien précise « Il n'y a aucune raison objective qu'il arrive aujourd'hui moins de patients aux urgences cardiaques qu'auparavant. Quel est le risque pris pour un patient porteur d'une maladie coronaire ou valvulaire sévère ? On focalise sur le Covid-19, sur un afflux de malades, mais nous ne sommes pas encore submergés par la vague. » Fin de citation. Avec ces propos, le chirurgien cardiaque craint la non-venue de patients qui ont peur, avec le risque que cela conduise à des situations dramatiques. Plus loin, le chirurgien cardiaque revient sur cette question du tri. Je cite « Le tri a débuté de facto. Lors de nos réunions de pôle, nous nous posons des questions du type « Est-ce qu'un patient de 90 ans doit mobiliser une équipe, un lit, des moyens importants et prendre la place de quelqu'un plus jeune qui a une espérance de vie plus importante ?» Et il en vient à pointer la réalité des moyens des hôpitaux. Nous ne sommes pas assez nombreux. Nous manquons de moyens humains et logistiques à Lille comme dans tous les CHU de France. Le manque de moyens à l'hôpital public est criant. Les Allemands sont moins agressifs dans leur choix thérapeutique. C'est vrai qu'ils disposent de plus de lits que nous. Et pour finir, nous avons noté ce titre toujours dans La Voix du Nord. L'État va-t-il espionner vos smartphones pour lutter contre l'épidémie ? De quoi s'agit-il ? Le journal précise « Le gouvernement s'apprête-t-il à traquer vos déplacements via les téléphones mobiles pour lutter contre la propagation du coronavirus. Rien n'est décidé, mais la France a manifesté son intérêt pour les outils numériques déjà en place à Singapour et en Allemagne. Et plus loin, le journal cite une déclaration de Stéphane Richard, PDG d'Orange, je cite « Nous travaillons avec l'INSERM pour voir comment les données peuvent être utiles pour gérer la propagation de l'épidémie. » À ce sujet, le site La Quadrature du Net, qui se veut en lutte pour qu'Internet reste un outil d'émancipation, indique « La période est à la priorité d'un capitalisme toxique face au respect des libertés. » Les entreprises du numérique comptent bien exploiter nos difficultés face à la crise sanitaire pour leur profit. Fin de citation. Pour terminer cette chronique actualité et revue de presse, je voudrais revenir plus généralement sur le coronavirus et rappeler qu'il s'agit d'un nouveau virus, particulièrement contagieux, au moins deux fois plus contagieux que la grippe. Quand il infecte un organisme, il s'accroche aux cellules de l'appareil respiratoire, le nez, la gorge, les poumons, et il s'y reproduit. La personne atteinte propulse alors dans ses postillons quantité de virus prêts à infecter de nouvelles personnes. C'est ainsi que l'épidémie se propage. Certaines personnes infectées ne présentent aucun symptôme et ne s'en rendent pas compte. Pour autant, elles fabriquent des virus et les transmettent à leur entourage. Concernant les personnes qui présentent des symptômes, 80% vont mieux au bout de quelques jours, y compris sans intervention d'un médecin. Par contre, dans 15% des cas, l'attaque pulmonaire est importante et nécessite une hospitalisation. Dans 5% des cas, les poumons ne remplissent plus leur rôle et il faut placer les malades sous respirateur. 2% des malades meurent, c'est un taux 10 fois plus important que la grippe. Pour freiner la dispersion du virus, il faut donc se laver en permanence les mains et se tenir à distance des projections de postillons dans des rassemblements en espace confiné. Ce sont les seules mesures contre le coronavirus. Il me semblait important de terminer cette chronique par ces rappels. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine avec beaucoup de courage. N'hésitez pas à nous écrire à contact@micro-rebelle.fr et à nous laisser vos messages sur notre répondeur 03 74 71 24 87. À la semaine prochaine, bye bye.
Et pour compléter cette revue de presse et d'actualité, Olivier avec nous par téléphone.
Dans les Arocs de cette semaine, un entretien avec la philosophe Corinne Pelluchon y interprète la pandémie comme un symptôme de la crise écologique et enjoint à avoir le courage d'avoir peur pour passer du savoir à la sagesse. Extrait. Avez-vous l'impression de vivre un moment tout à fait inédit ? C'est inédit parce que cela frappe chacun, chacune, mais les causes de cette crise ne sont pas une surprise. De nombreuses crises sanitaires et environnementales sont liées au fait que nous détruisons l'habitat des animaux sauvages qui se rapprochent de nous et nous transmettent les virus dont ils sont les hôtes. Ces crises soulignent la responsabilité individuelle et collective des humains et pointent l'aberration de nos modes de consommation et de production. Elles témoignent de la nécessité d'un changement profond de notre modèle de développement. Quelles sont les responsabilités profondes de cette crise ? Y a-t-il un lien entre destruction des écosystèmes et pandémie ? Oui, je fais partie du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et nous n'arrêtons pas de le dire, mais exploiter comme nous le faisons les forêts, détruire la biodiversité, élever dans des fermes-usines des animaux, cela a un coût environnemental et sanitaire. Quant aux animaux sauvages, il faut les laisser vivre selon leur nombre propre dans leur territoire. C'est pourquoi la cause majeure de cette crise réside dans l'aberration de certains modes de consommation, de production et d'échange. La mondialisation a atteint un degré délirant. On a fait de la nature un déchet et transformé les animaux en simples ressources. Tout cela nous revient en pleine figure. Il importe d'adopter une approche globale combinant le respect de l'environnement, la santé, la justice sociale, le bien-être animal. La transition écologique est au cœur d'un projet de civilisation répondant à ces quatre objectifs et nous permettant de reprendre en main notre destin pour éviter la déshumanisation et la destruction. On est tous frappés par notre vulnérabilité face à ce virus, comme si soudain, nous découvrions que nous sommes bien mortels. Je lis également dans la revue Esprit de ce mois de mars, la mesure seule maîtresse des fléaux, La peste de Camus, par Vincent Duclerc. Le roman d'Albert Camus, paru en 1947 en France, constamment réédité par les éditions Gallimard et traduit dans toutes les langues, connaît une nouvelle et soudaine popularité avec les conséquences du coronavirus et la lutte que le monde livre désormais à cette pandémie. Son succès ne s'est pas démenti. En Italie, gagné par le confinement généralisé, et il touche maintenant la France depuis la mobilisation générale décrétée par l'exécutif pour réagir à la guerre. Ce n'est pas la première fois que la peste passe du statut d'ouvrage classique à celui de symptôme des peurs et des espoirs de toute une société. Les Japonais s'en étaient saisis après la catastrophe de Fukushima en 2011. Cette fois, c'est à l'échelle du monde. Il est difficile de dire précisément ce que les lecteurs d'aujourd'hui recherchent dans la peste, ce récit que le docteur Rieu, l'un des principaux protagonistes de l'histoire, décida de rédiger alors que le combat engagé contre l'épidémie fulgurante qui s'était abattue sur la ville d'Oran trouvait une issue victorieuse bien que provisoire. La lecture est une énigme qui renvoie au secret de l'être et au monde de ses rêves. Tout au moins peut-on témoigner de ce qu'Albert Camus a souhaité transmettre avec la peste. Merci.
C'était Claude Kicker, multi-instrumentiste américain, ici avec Confluence. Les reportages que l'on propose pour cette seconde partie d'émission, c'est d'abord la situation des migrants en Grèce et notamment leurs conditions de vie déjà catastrophiques depuis l'épidémie de coronavirus qui n'épargne aucun pays et ne connaît pas, lui, les frontières.
Vous propose d'en savoir plus sur la situation en Grèce avec le coronavirus, notamment pour les migrantes et les migrants. Pour cela, on a posé des questions à Mamadou Diarra, traducteur au sein d'une ONG dans un camp sur l'île de Kos, en Grèce. Bonjour, peux-tu te présenter ?
Bonjour tout le monde, moi c'est Diarra Mamadou, je viens du Mali, j'habite précisément en Grèce. Je travaille avec une organisation qui est en partenariat avec le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Quelle est la situation en Grèce par rapport au coronavirus ?
La situation du coronavirus ici en Grèce n'est pas aussi pire comme celle d'Italie, la France ou l'Espagne. Pour le moment, on est presque dans les 700 cas confirmés, une quinzaine de personnes décédées dues au virus de COVID-19.
Quelle est la situation des migrants qui vivent dans des camps ou dans des squats ?
Bon, la situation pour les migrants vivant dans les camps ou dans les squats, c'est la situation très préoccupante ici, c'est la situation qui fait peur. Parce que premièrement, avant l'arrivée de COVID-19, avant l'arrivée du virus, les immigrants vivent dans des conditions insanitaires, dans des conditions vraiment très inhumaines et dégradantes. Parce que les camps sont bourrés de personnes. Les camps sont... Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dans les camps parce que par rapport... je vais vous donner l'exemple sur l'île de Lesbos. C'est un camp qui a été fait pour 3 000 à 4 000 personnes. Mais maintenant, il y a plus de 21 000 personnes qui habitent là-bas dans des conditions insalubres, sans accès à l'eau, ni aux toilettes pour les besoins nécessaires. Donc, c'est la situation qui est pure et qui fait peur actuellement. Mais pour le moment, il n'y a aucun cas détecté aux côtés des réfugiés ou des demandeurs d'asile ici en Grèce. Et la peur que nous avons ici est que la Grèce, c'est un pays qui est en crise économique et il n'y aura pas assez de place pour recevoir tous les patients, toutes les personnes contaminées. Donc, pour cela, la décision que le gouvernement a prise est que chacun reste chez soi. Depuis le lundi passé jusqu'au 6 avril prochain, donc on est en mode de confinement pour le moment, chacun est confiné chez eux. Je pense que c'est une très bonne mesure prise par l'État grec, par le gouvernement grec, parce que précisément dans l'île où je suis actuellement, il n'y a qu'un seul grand hôpital public et je suis sûr que les Grecs ne sont pas prêts pour recevoir des milliers de patients. Ils ne sont pas prêts pour cela. Donc, c'est mieux qu'on soit confiné pour le moment et on va espérer que le monde puisse avoir le vaccin contre cette épidémie, qui est une pandémie maintenant.
Et le gouvernement grec a-t-il pris des mesures spécifiques pour des gens qui vivent dans des camps ou dans des squats ?
Pour le moment, il n'y a aucune mesure spécifique prise par le gouvernement pour préserver ces personnes qui habitent dans les camps. Parce que les camps, comme je l'ai si bien dit, les camps sont bourrés. Les camps qui sont faits pour 3 000, 4 000 personnes sont habités par des milliers de personnes. Et tous ces gens n'ont pas de place dans le camp. Il y a beaucoup de personnes dehors. Il y a des milliers de personnes qui habitent dehors, sous des tentes ou des maisons fabriquées par eux-mêmes à l'aide des bois, à l'aide des cartons. Donc ces personnes n'ont pas accès aux toilettes. Ces personnes n'ont pas accès à de l'eau ou à des hygiènes nécessaires. Et ici aussi, les gens, par exemple, pas uniquement les réfugiés ou les immigrants, ici même les Grecs, dans l'île où je suis actuellement, quand tu pars aux pharmacies, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque. Et en plus, il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Quand même, c'est la situation qui fait vraiment peur. Parce que sur l'un des personnes habitant dans les camps, reçoit ce virus, donc cela veut dire que ça sera une catastrophe totale, hein, parce que tout le monde sera infecté. Tout le monde sera infecté par manque de mesures prises par le gouvernement. Donc, pour le moment, il n'y a aucune mesure spécifique prise par le gouvernement. Il n'y en a pas.
Avec le confinement, travailles-tu encore?
Si avec le confinement, je travaille parce que je suis interprète dans les camps de réfugiés ici. Donc, mais on travaille en respectant les règles de 2 mètres et avec les masques et les gants. Donc, je travaille. Je travaille avec la présence physique. Je travaille.
As-tu quelque chose à ajouter ?
Ce que j'ai ajouté est de lancer un appel solennel à tout le monde, qu'on respecte les règles qu'on nous impose, qui est à chaque fois de laver la main, de garder la distance des mètres entre nous et nos prochains, parce qu'on ne sait pas qui est infecté, qui n'est pas infecté. Et en même temps, de rester à la maison au moment des confinements. C'est très bien de rester à la maison. Quand tu restes à la maison, tu sauves des vies, tu sauves ta vie et tu aides les soignants qui se battent jour et nuit pour nous. Donc, c'est uniquement ensemble, ensemble qu'on va lutter contre ce virus, contre cette pandémie. Et mes sincères condoléances aux familles des victimes. Je souhaite un meilleur rétablissement aux malades qui sont actuellement dans les soins intensifs. Donc, et merci à vous aussi et bonne journée.
Un reportage réalisé par Elsa Eblema. Une petite pause musicale avec Andy, jeune artiste australienne, et ce titre, Run.
symptomatique d'un confinement un peu con. Corona est d'abord une marque de chocolat fabriquée par la maison Delespaul Avey de Lille. Chez nous, dans les années 60, c'était le seul chocolat que l'on connaissait. L'emballage était décoré par une belle couronne dorée qui pouvait donner droit à quelque chose si on en avait un certain nombre. Chaque tablette était accompagnée d'une photo que l'on pouvait mettre dans un album fourni contre argent par la même chocolaterie. Nous n'y avions pas droit, le budget familial ne le permettait pas. La maison Delespaul avait aussi inventé le carambar, petite barre de caramel chocolaté entourée d'un carré de papier dont l'une des papillotes était ornée d'un petit cercle rouge contenant les lettres DH. C'était le point DH que l'on était invité à collectionner pour recevoir des cadeaux publicitaires. Plus on avait de points DH, plus le cadeau était important. Mais nous, on ne les collectionnait pas. On n'avait pas le droit d'acheter des bonbons, sauf le dimanche, de temps en temps. Donc le nombre de points DH n'était jamais suffisant pour recevoir un cadeau publicitaire. Bon, à la prochaine.
Le discours de la paix. Vers la fin d'un discours extrêmement important, le grand homme d'État, trébuchant sur une belle phrase creuse, tombe dedans. Et, désemparé, la bouche grande ou ouverte, haletant, montre les dents, et la carie dentaire de ses pacifiques raisonnements met à vif le nerf de la guerre. La délicate question d'argent. Jacques Prévert.
Et les Français restèrent chez eux, et ils se mirent à lire et à réfléchir, et ils n'oublièrent plus de prendre des nouvelles de leurs proches. Dans l'incertitude de demain, ils comprirent enfin ce que voulait dire profiter de l'instant présent. Progressivement, les publicités vantant des produits dont ils n'avaient pas besoin leur semblèrent bien vides. Et ils comprirent. Ils n'étaient pas en train de survivre, mais bien de vivre. On venait de leur faire un cadeau incroyable. On leur avait offert du temps. Et la terre les trouva dignes d'elle. Et elle commença à respirer à nouveau. Catherine Testa.
Moi, je vous le dis, si les écoles restent fermées trop longtemps, les parents trouveront un vaccin avant les scientifiques.
L'insensé se glisse les mains sous les aisselles et vit de sa propre substance. C'est tiré de la Bible, l'Ecclésiaste. Pas que je sois spécialement croyant, mais ça laisse à méditer, et comme on en a tout le loisir.
Fantaisie. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans, mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII. Et je crois voir descendre un coteau vert que le couchant jaunit, puis un château de briques à coin de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, sein de grands parcs, avec une rivière baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs. Puis une dame à sa haute fenêtre, blonde, aux yeux noirs, en ses habits anciens, que, dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà vue, et dont je me souviens. Gérard de Nerval.
Depuis le début du confinement, la messagerie de Micro-Rebelles est ouverte aux voix diverses, dissidentes, larmoyantes, fulgurantes, chantonnantes, clairvoyantes. Tous les lundis, une chronique d'un confinement est publiée. Vous pouvez également participer, on rappelle les consignes, dites ce que vous voulez, mais rappelez-vous que vous vous adressez aux autres. Pour nous laisser un message, c'est au 03 74 71 24 87. 03 74 71 24 87. Pour la suite, une conversation téléphonique avec Benoît Boritz sur la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus. L'économie avec l'épidémie de Covid-19 semble à un tournant, la production mondiale est en chute libre, le PIB de la zone euro a diminué de 24% début 2020, on évoque des renationalisations, le rachat des emprunts de certains pays d'Europe par la BCE, etc. Alors que ce répit lié au confinement réveille les espoirs des écologistes et des objecteurs de croissance, les mesures prises par le gouvernement en France sont au contraire en faveur du capital et du profit pour une remise en marche d'une économie de marché dont on prend conscience des dégâts qu'elle cause. Pourtant, d'autres solutions immédiates ou en sortie de crise sont possibles. On en parle au téléphone avec Benoît Boritz. Tu es chercheur militant, animateur de l'association Autogestion et du site economie.org sur lequel sont parus plusieurs articles sur les conséquences économiques de l'épidémie. Tu es aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, je cite les deux derniers, « Au-delà de la propriété » et plus récemment « Virer les actionnaires ». Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que cette crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19 est également une crise économique. Ce qui est intéressant de prime abord, et notamment pour les adeptes de l'alternative, c'est que l'épidémie et le confinement rendent possible un scénario de décroissance économique. On voit par exemple une chute de la production, ne serait-ce que dans la zone euro, de 25% du produit intérieur brut. Alors d'abord, Benoît, en quoi cette décroissance-là, économique, qui est en train de se faire, pourrait être fatale à une économie capitaliste?
Eh bien parce que l'économie capitaliste, elle se nourrit de cette croissance. Je pense qu'il faut comprendre. On croit souvent que les actionnaires, en fait, ce qui les motive, c'est le profit. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas le profit des entreprises. Ce qui les motive, c'est la valorisation de leurs capitaux. Et la valorisation de leurs capitaux, elle est donnée par un scénario de dividendes futurs. Donc, quand l'économie, elle est en croissance, eh bien, naturellement, un rapport inchangé entre les classes, les dividendes sont censés monter. Et ça donne une très bonne valorisation au capital. Lorsqu'on est dans une croissance faible, et a fortiori dans une décroissance, ben le scénario de croissance de dividendes ne peut se produire que si on pressurise au maximum les salaires et tout ce qui est dépenses sociales comme la santé publique, justement, puisque c'est le point qui est sur la sellette aujourd'hui. Dans ce cas-là, on a une dévalorisation des capitaux. Alors on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas très très grave qu'il y ait dévalorisation des capitaux, on s'en fiche, mais oui, sauf que les actionnaires, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir dans les entreprises, c'est eux qui décident des investissements et du niveau de l'emploi. Donc on ne peut pas, et je suis extrêmement ferme sur ce point, on ne peut pas envisager une économie de la décroissance sans se séparer des actionnaires et des sociétés de capitaux.
Alors ce scénario de décroissance n'est pas celui que souhaite l'État, en tout cas c'est pas celui qu'il tente de voir advenir. Preuve en est la première mesure annoncée par Emmanuel Macron le 12 mars, qui est une exonération des charges sociales des entreprises. Alors tu dis que cette exonération, enfin cette mesure en tout cas, est irréelle économiquement déjà, en plus d'être certainement injuste. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais rappeler brièvement ce que sont les cotisations sociales, c'est-à-dire une part de revenus des salariés? Et deuxièmement, en quoi c'est irréel, notamment le fait que ces cotisations fournissent les moyens aux services publics, et par exemple les hôpitaux dont nous avons grandement besoin, ou encore l'indemnisation du chômage?
Oui, mais ces cotisations sociales sont des dispositifs qui ont été construits tout au long du XXe siècle. Et on a tendance à considérer qu'il s'agit de salaires socialisés. Donc les cotisations sociales sont du salaire. Pourquoi ? Ben parce que c'est bien entendu du salaire de substitution quand on est au chômage, c'est du salaire de substitution quand on est malade, c'est du salaire de substitution quand on est à la retraite. Mais c'est aussi et c'est ça, je dirais, la particularité des cotisations sociales à la française, la possibilité de financer du non-marchand et notamment de la fonction publique. Et dans le cadre de la santé, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ben les cotisations sociales, c'est directement ce qui fait les salaires des personnels soignants. Lorsque le gouvernement Macron décide de se substituer aux entreprises pour payer ses cotisations sociales, quelque part, il fait appel aux contribuables pour se substituer à des actionnaires qui sont défaillants. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Toute la question posée tout à l'heure, on parlait de décroissance. Je crois que nous avons aujourd'hui en face de nous un scénario de décroissance qui est tout sauf le scénario de décroissance de rêve. C'est tout simplement un cauchemar que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est confiné à la maison pour éviter de surcharger les services hospitaliers. Et on sait que pendant le même temps, ce sont des milliers et des milliers de morts qui sont annoncées tous les jours. Donc c'est un scénario de cauchemar, il n'est pas question de... Mais on sait qu'avec cette décroissance, on a vu qu'immédiatement la pollution tombait, et ce que l'on savait depuis des années, c'est l'impossibilité aujourd'hui d'avoir une croissance propre, ça nous montre une possibilité réelle d'envisager de sauver notre écologie, de sauver les espaces naturels, sauver notre climat, sauver la biodiversité. C'est ça, à mon avis, c'est-à-dire sauver tout simplement ce qui fait notre humanité au final. C'est pour ça que cette question posée aujourd'hui de dire un gouvernement se substitue aux actionnaires dans le sauvegarde des sociétés de capitaux telles qu'elles sont, c'est-à-dire d'entreprises qui sont orientées vers le profit et vers la valorisation du capital et toujours plus croissante, c'est un véritable crime. J'ai tendance à dire que c'est presque un hold-up. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'argent public pour maintenir en place des actionnaires. On va se servir de l'argent public pour nationaliser certes des compagnies d'avions, mais pour faire quoi ? Pour envisager un commun des transports longue distance dans lequel on va se soucier d'écologie ? Non ! L'objectif, c'est de les relancer pour demain les remettre à la privatisation. Je pense qu'on assiste ici à une opération sous couvert d'union nationale, une opération politique extrêmement discutable.
Parmi les solutions qui sont également proposées, on entend parler de nationalisation, on entend aussi parler de rachat des emprunts des États de la zone euro. Alors a priori, on pourrait plutôt se réjouir de voir des renationalisations, notamment de certains services publics, ou ce qui pourrait être des services publics. On pourrait aussi se réjouir de voir que les dettes soient en quelque sorte recentralisées, qu'elles échappent au marché financier en tout cas. Est-ce qu'il faut vraiment se réjouir de ça? Actuellement, quel est ton point de vue là-dessus?
Je crois que c'est un très vieux débat, en fait, il n'y a rien de neuf, hein, quand on voit le débat, par exemple, sur les nationalisations. On voit que c'était un débat qui existait déjà à l'époque de Jaurès. Jaurès expliquait, attention, lorsque l'on nationalise une entreprise, c'est pas pour cela qu'on la socialise. On la retire, certes, des mains du privé, mais toute la question, c'est pour quelle finalité, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, Jaurès, et c'est un petit peu ce que j'ai défendu dans mon livre « Au-delà de la propriété pour une économie des communs », on n'a jamais vraiment vu le chemin qui permettait de passer à la nationalisation à la socialisation. C'est toujours nationalisation vers étatisation, et qui dit étatisation dans les mains de l'État est souvent reprivatisation derrière. Donc quand on voit aujourd'hui des entreprises qui sont nationalisées en urgence, et on pense aux compagnies aériennes bien sûr, toute la question posée c'est pourquoi faire ? Pourquoi faire demain ? Encore une fois, si demain c'est pour les relancer économiquement et les reprivatiser, très bien pour le budget de l'État, l'État fera une bonne opération, ça c'est clair. Mais ce n'est pas la finalité que nous voulons. Ce que nous voulons, je pense, c'est penser demain la question des transports longue distance dans une optique écologique qui respecte la planète, et je pense que c'est au contraire en transformant ces compagnies d'avions, peut-être en les fusionnant avec le rail, on a privatisé ou on est en voie de privatiser la SNCF aujourd'hui, ce qui est une aberration écologique, commencer à penser un commun de longue distance qui serait en partie subventionné, en partie dissuadé par des taxes sur certains modes de transport, d'autres interdits. Il y a des destinations qui n'ont absolument aucune raison d'être desservies par l'avion. Enfin, tout ça est l'objet d'un débat démocratique, mais en tout cas, si c'est nationalisé pour reprivatiser, non.
Alors maintenant, j'aimerais aller un peu dans la prospective. Imaginons que à la suite de cette crise au moins sanitaire, parce qu'on s'imagine bien que la crise économique va elle perdurer un peu plus longtemps. Imaginons qu'on reste dans la dynamique actuelle, c'est-à-dire avec ce type de mesures que prend le gouvernement et qu'il n'y a aucune alternative qui se dessine. À quoi faudrait-il se préparer en quelque sorte pour écoper le raz-de-marée économique et quel pourrait être en quelque ou comment ça pourrait devenir également un choc social. Je pense aussi à des cures d'austérité encore plus intenses.
D'abord, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même interroger la gauche et l'écologie politique. On se trouve en face d'une situation qui permet, aussi bien l'une que l'autre, et de temps en temps, je dirais les deux sont assez mélangés, de répondre à nos aspirations, c'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui, on est dans une situation où la question du départ des actionnaires est posée, où la question de la socialisation de l'économie est posée, on est dans une situation où il est très clairement possible de donner un nouveau cours à notre économie de façon à ce qu'enfin elle respecte la planète, qu'enfin on la sauve, cette humanité, cette planète. Tout le rapport du GIEC ne cesse de nous dire, c'est dans ces années-là que nous prenons les décisions qui feront que demain, nous aurons un environnement viable ou pas. Et attention, dans 5 ans, 10 ans, ça sera trop tard. Ben là, on est à ce tournant. Et assez curieusement, je remarque que l'écologie politique, ou même la gauche, est assez silencieuse. On est un petit peu dans l'Union nationale, derrière l'idée de dire « bah oui, sauver l'économie, on va sauver l'économie ». Bah oui, c'est logique, quoi. Sans poser la question de « qu'est-ce que c'est que cette économie ?». Alors, au sortir de cette crise, qu'est-ce qui va se passer? Mais bien sûr, il peut se passer des tas de choses. Déjà, on voit que Macron se prépare. Il a annoncé hier soir qu'il allait y avoir des mesures extraordinaires de prise pour la santé publique, pour les personnels de la santé publique à qui on doit une reconnaissance, etc., etc. On sent que rien ne se passera tout à fait comme prévu. Il n'est pas du tout exclu qu'à partir de ce moment-là, bah, les salariés, oui, demandent des contreparties par rapport à ce qui s'est passé. Donc je dirais, tout est un petit peu ouvert, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut tracer cette possibilité. Je pense très sincèrement qu'il va falloir que la gauche et l'écologie politique disent clairement que, attention, tout ce qui va être abandonné aux sociétés de capitaux en termes de cotisation sociale, et quand là je parle d'abandon définitif, pas de substitution, c'est-à-dire on va effacer et on va maintenir les sociétés de capitaux, ben que jamais ça ne se produise, ou si ça se produit, ce qui est des contreparties tangibles, je crois que ça c'est très important. Mais au final, je pense que le problème de cette économie capitaliste, de ces sociétés de capitaux, ça a toujours été leur valorisation. C'est à cause de cette problématique de la valorisation, qui est donnée, je le répète, par les anticipations de dividendes, qu'il faut favoriser ces dividendes et que donc le moins-disant social, le moins-disant fiscal est toujours le meilleur pour ces sociétés de capitaux. Et c'est pour ça que la santé publique, elle a été conçue dans une logique de budget contraint. C'est-à-dire qu'on a dit ça sera tel budget, pas autre chose, et débrouillez-vous pour faire face à tout ce qui viendra. Je crois qu'on est obligé de passer maintenant dans une autre logique. Pour l'instant, Macron n'a annoncé que des augmentations de salaire, de revoir des tas de choses, mais elle n'est pas là la vraie question. La vraie question, c'est quelle santé publique nous voulons, en face, quel est le budget. Et bien entendu, il y a un débat sur le niveau de prélèvement à avoir. Il ne s'agit pas de dire qu'on va aller n'importe où, dans n'importe quel montant, je dirais, alloué à la santé publique. Bien sûr, c'est un débat citoyen à avoir, mais il est évident que ça ne sera certainement pas cette santé qu'on a eue aujourd'hui. Ça fera quelque chose de plus. Alors, je veux bien qu'on me dise il y aura une santé publique qui sera beaucoup mieux assurée demain qu'elle ne l'a été dans le passé. La question, elle est, qui va payer? Est-ce que c'est compatible avec les valorisations des sociétés de capitaux? Je pense aussi qu'après avoir connu une baisse de 30% de la valorisation, et ça n'est pas fini, on ne sait pas où ça va aller dans les jours qui viendront, ben les actionnaires, en quelque sorte, ils sont échaudés. C'est ce que j'appelle la prime de risque sur mon site economie.org, et que, enfin, que les financiers appellent la prime de risque. Hein. La prime de risque va énormément monter, parce qu'il y a une volatilité. Donc, prime de risque, ça veut dire qu'ils vont être encore plus exigeants sur les rendements qu'ils attendent demain de leurs actions. En quoi cela va être compatible? Là, franchement, c'est la grande question à laquelle il va pas falloir peut-être que les forces politiques répondent.
Ton dernier ouvrage s'appelle « Virer les actionnaires ». Est-ce que tu vois la crise actuelle? On l'a un peu dit, mais est-ce que tu vois la crise actuelle comme l'opportunité justement de pouvoir mettre en place une économie alternative. Et est-ce que tu pourrais nous présenter peut-être grossièrement quelques-unes des modalités? Bon, donc déjà, est-ce que c'est possible d'après toi de virer les actionnaires et pourquoi faire?
Alors, les virer, oui, tu parles d'opportunité, je ne sais pas si le mot, si c'est le mot opportunité que j'emploierais, je dirais qu'on a un tournant où c'est possible, voilà. On a un tournant où aujourd'hui c'est possible. Je drasse dans mon livre d'autres scénarios, un autre scénario, enfin je n'évacuais absolument pas le scénario de la crise financière. Bon, là, il se trouve qu'on est dans le scénario de la crise financière qui a été provoquée par une crise sanitaire, mais il y a un autre scénario que j'envisageais aussi, c'était celle de l'avenue au pouvoir d'un gouvernement progressiste qui prendrait des mesures d'augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée ou de diminution des profits. Et je disais dans ce livre, de toute façon, ce gouvernement, ou il se contente de faire ça et à un moment donné, il reviendra sur ses promesses et il trahira, comme d'autres l'ont fait, où il ira jusqu'au bout de sa logique, et le bout de sa logique, c'est que augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée, ça veut dire réduire les valorisations, ça veut dire augmenter les primes de risque, et ça veut dire faire face à une grève des investissements de la part des actionnaires. Et donc, il est nécessaire, c'est pas une idée que je lance, c'est pas l'idée, tiens, on va virer demain les actionnaires, non, c'est une obligation de virer les actionnaires si nous voulons que ces programmes sociaux et écologiques tiennent dans le temps et ils aient un sens. Voilà. Alors, en deux mots, dans ce livre « Virer les actionnaires », je réponds à cette première question « Pourquoi ?». Là, je viens d'en parler. Il y a la deuxième partie qui est « Comment s'en passer ?». Ben, comment s'en passer, je dirais grosso modo sur deux pistes qui me semblent essentielles. La première, ben, c'est l'idée de dire que il faut établir un système financier socialisé, qui est constitué d'un fonds citoyen, avec des contributions sociales, fiscales dans ce fonds, qui vont accorder des lignes de crédit à des banques autogérées, lesquelles banques autogérées vont financer les entreprises, tous les actifs des entreprises. L'idée centrale dans ce livre « Virer les actionnaires », c'est de financer la totalité des actifs des entreprises et donc faire disparaître la notion de capital et la notion de fonds propres. Je ne vais pas rentrer plus loin dans le débat technique, là on le retrouvera dans le livre et dans mon précédent livre, mais l'idée centrale est bien de se débarrasser de la notion même de capital, c'est-à-dire d'argent qu'on met à la disposition de l'entreprise et qui donne le pouvoir dans l'entreprise en contrepartie pour extraire des dividendes et obtenir une valorisation. Non, il faut sortir, comme je l'explique dans ces deux derniers livres, au-delà de la propriété, et virer les actionnaires, sortir de cette notion de propriété des moyens de production. Donc là, je ne parle pas d'étatisation, je ne parle pas de nationalisation, je parle justement de non-propriété pour établir un commun dans lequel les travailleurs, les travailleuses, les salariés sont au pouvoir dirigeant l'entreprise et dans laquelle les usagers, les citoyennes, citoyens ont la possibilité et doivent orienter ces entreprises en fonction de leurs besoins et en fonction de leurs aspirations et des libérations démocratiques. C'est ça la société que nous sommes, qui à mon sens, la direction, c'est une société extrêmement large en termes de possibilités, en termes de paramètres. En permanence dans mon livre, je dis, mais ça, c'est pas à moi d'en décider. Ça, c'est la délibération démocratique qui le fera. Une des composantes aussi de cette société de demain, comme je le disais, c'est la sécurisation des revenus par la péréquation dont on a parlé tout à l'heure.
Ce micro-rebelle hebdo se termine. Juste à l'instant, c'était avec nous par téléphone Benoît Boritz, dont le dernier ouvrage s'intitule « Virer les actionnaires ». On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine d'actualité. Merci à Radio PFM qui diffuse et rediffuse cette émission. Portez-vous bien, on se quitte en musique avec de nouveau Cloud Kicker et ce Sylvan.